16h-18h sur Europe 1.
Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Bonjour à tous, bienvenue dans Historiquement vôtre, deux heures d'histoire décontractée, mais rigoureuse, en compagnie d'un garçon qui devrait être logiquement très rigoureux, puisqu'il est suisse. Sauf que, vous avez compris. Bonjour Mathieu Noël.
Bonjour Stéphane, bonjour à tous, moi aussi, je suis ravi de vous retrouver. Un petit point sur votre régime peut-être, je rappelle ce que vous nous disiez hors antenne hier.
Tu sais, je fais attention, je n'entre plus dans aucun de mes vêtements.
Justement, la balle au centre, Stéphane. Hein. On peut passer au sommaire de cette émission ou
vous
donne mon IMC.
Vous avez fondu. Hein,
c'est mon IMC, parfait.
Je vous dis ça, je dis rien. Vous êtes face à de nouveaux défis. Parce que vous êtes face à de nouveaux défis dans votre famille. Tous les matins, à 7h40.
Ça va,
ça y est, je suis votre exemple. Bon, on est là pour parler du sommaire.
C'est vrai, le sommaire.
Aujourd'hui, historiquement vôtre, c'est plus qu'une émission. C'est un cri.
Résiste.
Oui, résiste. On réunit aujourd'hui trois dames qui ont résisté et prouvé qu'elles existaient. À commencer par celle qu'on appelait Solitude, une figure méconnue de la résistance des esclaves noirs en Guadeloupe qui s'est battue pour continuer à exister, vous verrez. Puis je vous raconterai la vie surréaliste d'une artiste qui l'était tout autant, l'américaine Mary Reynolds, venue vivre en France et qui a choisi d'entrer en résistance et de quitter le pays pendant la Seconde Guerre mondiale pour elle aussi continuer à vivre. Quant à vous, Mathieu, évidemment, il ne faut pas trop vous en demander. Vous êtes allé vers le plus simple, quoi.
Oui.
Quand le thème d'une émission, c'est résiste, vous décidez de nous brosser le portrait de...
J'aurais pu choisir Lucie Aubrac, si j'avais voulu. Mais j'ai choisi France Gall. Une battante, un parcours exceptionnel, et puis surtout, ce sera l'occasion de vous faire découvrir un inédit Aznavour chante France Gall.
Résiste, prouve que tu existes, elle va m'ouvrir la main.
Je lis dans vos yeux une forme d'impatience qui ne m'étonne pas. C'est des inédits que je me suis procuré spécialement pour ça.
Avec nous, comme chaque jour, nos célèbres chroniqueurs, et elle est là. Elle nous entraîne dans l'intimité des grandes ce monde, c'est Clémentine Portier-Kaltenbach.
Bonjour, messieurs, bonjour à tous. Alors, petite question pour vous, à votre avis, quand a été libéré le dernier prisonnier de la Seconde Guerre mondiale? Vous diriez en quelle année?
Les années 70.
Non, il a été libéré, il était prisonnier en Russie. Non, et figurez-vous que c'était en l'an 2000. Tout ce temps-là, il était interné dans un asile psychiatrique. C'était un Hongrois qui s'appelle Andras Thomas. Et comme les gens ne parlaient pas sa langue autour de lui, on le croyait fou. Et lui ne pouvait
pas. Il était juste Hongrois,
il ne pouvait pas prouver qui il était. Voilà ce dont je vous parlerai à l'heure. Andras Thomas, dernier prisonnier de la Seconde Guerre mondiale, l'homme qui n'existait pas.
Avec nous également David Castello-Lopez qui remonte aux origines d'une invention.
Oui, et là c'est vraiment un objet de notre quotidien puisque c'est la ceinture de sécurité dans les voitures. Voilà, je sais qui c'est qui l'a inventé, je vous le dis.
Vous avez son interview ou vous avez pu le rencontrer?
Non, il est décédé depuis.
Ce sont des choses qui arrivent quand on remonte les vieilles inventions. À vos côtés, David, il aime les curlis, les bâtonnets findus et la mouclade. Et pourtant, il a réussi à devenir chroniqueur gastronomique. Bonjour Olivier Pouls.
Bonjour tout le monde.
Aujourd'hui, c'est un objet du quotidien, mais de votre quotidien, et je vous le laisse.
Que tout le monde doit avoir dans ses placards.
Très bien.
Les sardines en boîte. Depuis quand les mettons en boîte? Grâce à qui? Pourquoi? Comment? Et puis qu'est-ce qu'on en fait de ces boîtes?
Bien sûr qu'on les mange.
C'est
la question du Portugal un petit peu.
Oui. C'est pas au Portugal qu'on invite les premières sardines en boîte.
Il y a des assemblages de boîtes de sardines.
C'est des sortes de bijoux très chics comme ça avec que des sardines.
On a les bijoux qu'on peut.
Enfin les amis, à travers nos célèbres quiz, Bern to be alive d'abord, un quiz en forme d'hommage aujourd'hui puisqu'il sera entièrement consacré à Jean-Paul Belmondo qui a même un conseil à vous donner pour le quiz, Stéphane.
Étant donné que tu vas être confronté à pas mal de choses que tu connais pas, tu vas faire semblant de les connaître. Et le meilleur moyen de faire croire que tu connais tout, c'est de jamais avoir l'air étonné.
C'est un bon conseil de Jean-Paul, Stéphane, essayez de l'appliquer. Mais aussi la lutte finale, nous démasquerons les tartuffes de cette émission. Mais commençons par un petit récit d'une femme qui était tout sauf petite, une résistante avec un grand R. Stéphane Bern nous raconte le destin d'une ancienne esclave, son nom, Solitude.
Europe 1.
16h-18h.
Historiquement vôtre. Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Le récit.
Ce 29 novembre 1802, sur les hauteurs de Basse-Terre, en Guadeloupe, un cortège de condamnés avance enchaîné. Parmi eux, la femme Solitude marche les poings liés derrière le dos, la tête haute et le regard fier. Quand a-t-elle senti, pour la dernière fois, les rayons du soleil sur sa peau?
Depuis des mois, la jeune femme croupit seule dans la pénombre d'une cellule crasse. La veille, elle a donné naissance à un enfant qu'on lui a tout de suite arraché. Que deviendra-t-il ? Est-ce qu'il sera comme sa mère et sa grand-mère avant lui, l'esclave des Blancs qui domine l'île à nouveau ? Les dés sont jetés. Solitude n'y peut plus rien. Au bout du chemin, l'échafaud l'attend. La corde balance soufflée par le vent. L'insoumise jette un dernier regard aux monts Caraïbes qui l'ont vu grandir et résister. D'autres insoumis reprendront le flambeau, elle en est certaine. Le nœud coulant glisse sur son cou, la corde se tend. Et soudain, c'est la nuit pour toujours. 6 mois plus tôt, Solitude luttait aux côtés des insurgés guadeloupéens. Au début du mois de mai 1802, elle voit débarquer à Pointe-à-Pitre des navires français comptant 3500 hommes à leur bord. À la tête des troupes, le général Antoine Richepense. Il est envoyé par le premier consul pour rétablir l'ordre colonial après un putsch des officiers de couleur de l'armée. Mais sur l'île, la révolte gronde. Dans les heures qui suivent l'arrivée des armées napoléoniennes, la résistance s'organise dans les quartiers de Basse-Terre. Le chef de bataillon, Louis Delgré, s'impose comme chef de la rébellion. Le 10 mai, il fait placarder dans les rues une proclamation intitulée « À l'univers entier, le dernier cri de l'innocence et du désespoir ». Dans ce texte, il s'attaque au tout-puissant Napoléon Bonaparte. Il proclame la liberté universelle et en appelle aux valeurs de la République, celle-là même qui avait aboli l'esclavage en 1794. Au nom de ses frères hier opprimés et menacés de l'être à nouveau, Delgré écrit « C'est dans les plus beaux jours d'un siècle à jamais célèbre par le triomphe des Lumières et de la philosophie qu'une classe d'infortunés qu'on veut anéantir se voit obligée d'élever sa voix vers la postérité pour lui faire connaître, lorsqu'elle aura disparu, son innocence et ses malheurs. Dans le siècle de la philosophie, il existe des hommes qui ne veulent voir d'hommes noirs ou tirant leur origine de cette couleur que dans les fers de l'esclavage. » Dès l'arrivée des troupes de Napoléon, la bataille de Basse-Terre commence. L'île est à feu et à sang. Alors que les Français encerclent progressivement la ville, Delgré et ses partisans se replient derrière les murailles épaisses du Fort Saint-Charles. Les coups de canon se succèdent, et voilà le fort pris d'assaut par l'ennemi. Delgré parvient toutefois à s'échapper par la petite poterne du galion située à l'arrière du fort. Avec 300 hommes et femmes qui luttent avec lui, le colonel remonte la rivière et se réfugie à Matouba, dans une habitation bâtie sur les flancs de la Soufrière. Mais il le sait, les troupes consulaires arriveront bientôt, et la répression se fera dans le sang, les baïonnettes n'épargnant personne. Fier représentant de l'esprit révolutionnaire, Delgré veut se montrer fidèle à la devise « vivre libre ou mourir ». Il fait miner la maison et attend calmement l'arrivée des troupes françaises. Au matin du 28 mai, d'un air solennel, Delgré donne le signal. On met le feu aux poudres. La déflagration fait trembler l'île et emporte de nombreux soldats napoléoniens. Delgré est mort, en homme libre. Il ne pliera jamais le genou face à l'ennemi. Ce jour-là, Solitude a-t-elle vu le volcan s'embraser après le sacrifice du colonel ? A-t-elle brandi le poing en criant « Vive la liberté ?» Fait-elle partie des survivants bientôt arrêtés par les hommes de Richepense ? Nul ne le sait. Mais alors que Delgré n'est plus, les Français mènent une répression sans précédent. Des centaines de rebelles sont arrêtés, jetés dans des geôles sombres et exécutés. Le 16 juillet, Bonaparte ordonne le rétablissement de l'esclavage sur l'île. Le lendemain, Richepense supprime la citoyenneté pour tous les hommes de couleur et tous les soldats noirs sont déportés en France ou vendus comme esclaves à l'Amérique. En juillet, Solitude est-elle déjà derrière les barreaux ? En fait, on ne sait pas quel fut exactement son rôle dans la révolte de 1802. Son nom est mentionné pour la première fois en 1858 par l'historien Auguste Lacour dans son Histoire de la Guadeloupe. Lui nous apprend qu'elle était métisse et insurgée, qu'elle portait un enfant et qu'elle fut arrêtée, condamnée à mort et suppliciée au lendemain de la délivrance. Il l'a décrite comme une guerrière enragée, prête à saigner l'oppresseur à la pointe de sa broche. Les historiens de l'époque ne nous apprennent rien de plus sur ce personnage aujourd'hui érigé en héroïne du combat contre la traite négrière. Ce que l'histoire n'a pas pu nous dire à propos de Solitude, c'est l'écrivain français André Schwarzbart qui s'est chargé de le raconter grâce à la littérature. Le 1er février 1972, son roman intitulé « La mulâtresse solitude » paraît dans les librairies françaises. Sous la plume de Schwarzbart, Solitude devient l'incarnation de toutes ces femmes de couleur, hier réduites en esclavage et prêtes à se sacrifier pour garantir demain la liberté de leurs enfants. La mulâtresse Solitude, dans les pages du roman de Schwarzbart, est née en 1772 dans l'habitation d'une plantation de canne à sucre où sa mère, esclave avant elle, avait été conduite de force. Mayen Goumet, c'est son nom, avait été arrachée à son village d'Afrique et emmenée loin, très loin, dans la colonie française de Guadeloupe. À bord d'un bateau négrier, elle avait été violée par un marin blanc. Quelques mois plus tard, une petite fille, mi-blanche, mi-noire, avait vu le jour. Avant de s'appeler Solitude, la petite fille avait été baptisée Rosalie. Et Rosalie avait appris à servir ses maîtres blancs. Elle avait reçu quelquefois des coups de fouet, avait été vendue une fois, puis deux. Et voilà qu'en 1794, le décret sur l'abolition de l'esclavage l'avait libérée de ses chaînes. Mais dans les veines de Solitude, le feu de la révolte brûlait. Alors moins de 10 ans plus tard, quand les Français étaient revenus pour les enchaîner à nouveau, Solitude, le ventre arrondi par une grossesse, avait pris des armes aux côtés des troupes noires et s'était cachée dans les forêts de la Soufrière. Elle avait été arrêtée et, au lendemain de son accouchement, exécutée à l'âge de 30 ans. Dans l'histoire, la vraie, celle avec un grand H, l'esclavage que Napoléon Bonaparte a rétabli en 1802 est aboli près d'un demi-siècle plus tard, en avril 1848. Si l'on retient l'action d'abolitionnistes célèbres comme Victor Schœlcher, nul doute que les hommes et les femmes épris de liberté comme l'étaient Solitude et Louis Delgrès incarnent eux aussi la mémoire de la lutte contre l'esclavage. En septembre dernier, on inaugurait à Paris un jardin au nom de l'héroïne antillaise. Dans le jardin Solitude, une statue à l'effigie de la mulâtre révoltée sera la toute première honorante une femme noire jamais érigé à Paris.
Europe 1, historiquement vôtre.
Et pour essayer d'en savoir plus sur Solitude, nous avons le plaisir d'accueillir Frédéric Régent. Bonjour Frédéric.
Bonjour.
Bonjour Frédéric Régent. Vous êtes historien, spécialiste de l'histoire de l'esclavage et vous avez notamment écrit Les Maîtres de la Guadeloupe, propriétaires d'esclaves, 1635-1648, paru aux éditions Taillandier. Pour raconter l'histoire de Solitude, alors c'est vrai, il faut démêler le vrai du faux, car on sait finalement très peu de choses sur elle. De quoi est-on véritablement certain? Est-ce qu'on est même sûr qu'elle a, bon, elle a vraiment existé, Solitude?
Oui, oui, elle a existé. C'est l'historien Lacour qui en parle. Et Lacour, il a connu des témoins des événements. Et lorsque l'on compare ce qu'écrit Lacour avec les faits historiques, eh bien, c'est vraiment quelqu'un de très sérieux. Alors, on sait pas grand chose d'elle. Alors, on sait qu'elle était mulâtresse, ce qui signifie qu'elle avait un parent noir, un parent blanc ou deux parents mulâtres. Ce qui signifie aussi, c'est qu'elle avait probablement une position avantageuse par rapport aux esclaves de base, aux esclaves noirs, hein, parce que dans les sociétés, les femmes mulâtresses avaient été souvent domestiques, servantes. Elle pouvait éventuellement être libre de couleur, parce que dans la révolte de 1802, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a dans l'encadrement, tous les officiers, Delgrès, Ignace, tous ces gens-là sont des libres de couleur et accompagnés aussi d'anciennes femmes de couleur libre.
Qu'est-ce que c'est un libre de couleur? Parce que l'expression est vraiment déroutante un peu.
Alors, donc un libre de couleur, c'est un affranchi ou un descendant d'affranchi. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans les sociétés esclavagistes, les maîtres affranchissaient un certain nombre d'esclaves. Le plus souvent d'ailleurs, c'était une concubine avec des enfants avec lesquels qu'ils avaient eu avec ces concubines, ou des esclaves qui avaient rendu de très bons services à leur maître.
Ils leur avaient sauvé la vie, par exemple.
Voilà.
On pouvait les affranchir, ils devenaient libres, mais de couleur.
Voilà. Et ces libres de couleur combattaient aussi pour la défense du principe d'égalité qui avait été remise en cause par Napoléon Bonaparte. Hein, jusqu'en 1799, les colonies étaient devenues des départements qui élisaient des députés, élisaient des municipalités. Et en 1799, lorsqu'il prend le pouvoir, il supprime tout ça. Et donc, 1802, c'est d'abord une révolte d'officiers de couleur qui défendent aussi ce principe d'égalité. Et Solitude, ce que l'on sait, c'est qu'elle est dans un des camps des insurgés. Et alors pourquoi la cour en parle? Il en parle pour deux raisons. La première raison, il dit qu'à un moment, elle embroche un lapin, elle le montre à des prisonniers blancs qui sont là en leur disant « voilà ce qui va vous arriver ». Et puis la deuxième raison, c'est parce qu'elle est enceinte et on va attendre qu'elle accouche de son enfant pour la supplicier.
Solitude, c'est une figure qu'on célèbre aujourd'hui en Guadeloupe, elle est...
Oui, alors, du fait du roman de Schwarzbart, hein, où il y a, à mon avis, beaucoup d'inventions, l'histoire du viol de sa mère sur un navire négrier, c'est pas du tout documenté, c'est même improbable. Moi, il me semble, Solitude est plus une affranchie, le fait qu'elle soit marronne, là aussi, c'est improbable. Vous voyez, les femmes sont moins marronnes que les hommes, et les mulâtres sont les moins marrons de tous les marrons. Donc, voilà, bon, c'est du roman, et du fait du succès du roman, qui a été ensuite repris dans l'espace public, avec des statues, avec beaucoup de représentations théâtrales, enfin voilà, c'est devenu voilà, une figure de ce mouvement de rébellion de 1802, hein, qui précède le rétablissement de l'esclavage. Voilà, mais c'est un peu comme Jeanne d'Arc, ou comme, Jeanne d'Arc, il y a quand même beaucoup plus de documentation historique. Mais ouais, ça fait partie de ces figures féminines sur lesquelles on sait très peu de choses et qui sont aujourd'hui héroïsées.
Alors, Stéphane l'a raconté, la rébellion à laquelle Solitude participe intervient alors que Bonaparte décide d'envoyer ses troupes en Guadeloupe en mai 1802. Qu'est-ce qui motive cette décision?
Alors, ce qui motive cette décision, c'est qu'en octobre 1801, il y a eu une rébellion des troupes de couleur qui ont chassé Lacrosse, qui était l'envoyé officiel de Napoléon Bonaparte. Et Lacrosse a été chassé parce que il menait en place une politique discriminatoire vis-à-vis des officiers de couleur. Alors, je vous donner deux exemples. Premièrement, il avait baissé leur solde par rapport aux soldats métropolitains. Et puis, alors qu'il y avait eu le général en chef de l'armée qui était décédé, normalement, ça aurait dû être le plus haut gradé qui aurait dû le remplacer. Et il s'arroge le titre de général en chef aux dépens de Magloire Pélage, qui était l'officier le plus gradé, mais qui était un officier de couleur. Et craignant donc la déportation, subissant cette politique vexatoire, ces officiers de couleur, alliés avec des blancs, hein, parce qu'il faut pas oublier, il y a des blancs aussi, on a une époque aussi où commence le retour des émigrés, et ceux qui ont bénéficié des biens des émigrés, eh bien, ils ont pas envie que ces émigrés reviennent, parce que c'est eux qui gèrent les plantations, et donc il y a un mouvement qui renvoie Lacrosse. Et Napoléon Bonaparte va envoyer une expédition pour rétablir l'ordre. Elle est confiée au général Richepanse, et le général Richepanse va effectivement rétablir l'ordre, il va mater la rébellion dans le sang, hein, et il va aller tellement loin dans la répression et dans le rétablissement de l'ordre que Bonaparte va s'en étonner lui-même. Il a dit, il est allé au-delà de nos espérances, et de ce fait, nous pouvons rétablir l'esclavage.
Mais justement, pour cette année du bicentenaire de la mort de Napoléon Bonaparte, il y a eu beaucoup de polémiques autour de ça, et notamment le point noir, si je puis dire, du bilan de Napoléon, de fait de Bonaparte, c'est d'avoir voulu rétablir l'esclavage qui avait été aboli en 1794. À votre avis, pourquoi l'a-t-il fait?
Alors, il le fait, il faut reprendre ses mots, il le fait pour punir la Guadeloupe. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que il fait ça en deux temps. Il y a un premier temps qui est le maintien de l'esclavage. Parce que quand Napoléon arrive au pouvoir, il y a des colonies où l'esclavage a été maintenu
et d'autres
où il a été aboli. Alors, que faire dans cette situation? Eh bien, il se montre très opportuniste. Il dit, là où l'esclavage a été maintenu, on le maintient. Il dit, on n'a pas besoin de révolution supplémentaire dans ces colonies-là. Et là où il a été aboli, il veut maintenir l'abolition. Mais face aux révoltes de Toussaint Louverture à Saint-Domingue et puis de Delgrèce en Guadeloupe, eh bien, il décide de rétablir l'esclavage et il le dit, c'est pour punir ces gens de s'être révoltés. Hein, c'est ce qu'il dit. D'ailleurs, à Saint-Domingue, il ne rétablit pas l'esclavage parce qu'il ne prend pas le contrôle de l'île. Donc, il le dit, il faut que cette population qui s'est révoltée reçoive l'expiation de son crime. Donc, c'est plus une motivation.
C'est un esclavage punitif, là.
Exactement. Et d'ailleurs, en Guyane, dans un premier temps, il ne va pas rétablir l'esclavage. L'esclavage sera rétabli un an après. Et d'ailleurs, il est rétabli sans que Napoléon ait vraiment donné son avis. C'est son ministre qui joue un très grand rôle dans le rétablissement de l'esclavage, qui s'appelle De Cresse, hein, à pas confondre avec Del Grèce, qui est un esclavagiste convaincu. Il dit l'estomac des nègres n'est pas adapté à la liberté. Enfin, vous voyez, il va très loin. Plutôt, voilà, la liberté est un aliment indigeste pour l'estomac des nègres. Ça, c'est ce que dit De Cresse. Et Napoléon Bonaparte, d'ailleurs, dans ses écrits, à un moment, il dit « Ce serait plus facile pour moi de maintenir la liberté, parce qu'il me faudrait plusieurs années de paix pour pouvoir garantir la reconquête des colonies. » Donc, il est tout à fait conscient des enjeux géopolitiques. Et c'est un acte de souveraineté, un acte de puissance et un acte punitif.
Stéphane, on parlait tout à l'heure. Quel rôle a joué le roman de Schwarzbard dans la construction du personnage de l'héroïne Solitude? Sans la publication de ce livre, elle aurait peut-être pas été érigée en figure mémorielle de la traite négrière.
Complètement. C'est le livre qui l'a érigée en figure mémorielle. Vous voyez, c'est un peu comme Cosette, un peu, on a l'impression que c'est un personnage historique. Alors bon, là, la différence, c'est que Solitude a effectivement existé, mais voilà, on a un fragment de vie. Elle embroche un lapin, bon, et puis après, effectivement, cet aspect abominable de cette femme enceinte et dont on attend l'accouchement pour la supplicier. Alors encore une fois, supplicier, bon, a priori, je pense qu'elle a été pendue, hein, mais c'est aussi recevoir un supplice. Vous voyez, il y a toujours aussi cette interrogation, est-ce qu'ils ont été... quel type de supplice elle a reçu? Est-ce la peine capitale, ce que je crois, ou carcan, fouet, enfin, y a, vous savez, là, il y avait toutes sortes de moyens de punir les gens à cette époque.
Dans ces questions mémorielles sont extrêmement brûlantes, on le voit. Et alors, on a érigé, on est en train d'ériger une statue à Solitude avec un jardin qui porte son nom à Paris. Il va y avoir la statue du général Dumas. Mais on voit dans le même temps qu'en Guyane et en Martinique, on a déboulonné la statue de quand même d'un des grands abolitionnistes comme Victor Schœlcher. Comment vous expliquez ces phénomènes?
Alors, c'est... ce qu'il faut savoir, c'est que ceux qui organisent cela appartiennent à une mouvance politique nationaliste, d'hostilité à tout ce qui est la France. Et Schœlcher est considéré comme voilà l'abolitionniste français. Alors, ce qu'il faut voir aussi, c'est que il y a eu un culte pour Victor Schœlcher qui a été mis en place par les élites locales, mais qui est hallucinant. C'est-à-dire qu'à un moment, la Saint-Victor était jour férié aux Antilles. Il y a une ville qui s'appelle Schœlcher, enfin il y a la bibliothèque Schœlcher, enfin il y a des rues Schœlcher dans tous les sens, et ça aussi dénote cette volonté de rééquilibrer l'histoire, de montrer que le mouvement abolitionniste vers l'abolition n'est pas uniquement le fait des abolitionnistes.
En tout cas, merci Frédéric Réjean. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Les Maîtres de la Guadeloupe, propriétaires d'esclaves, 1635-1648, qui est disponible aux éditions Taillandier.
Ici Europe 1.
16h-18h sur Europe 1.
Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Tous les jours des 16h, Historiquement vôtre vous raconte l'histoire sans se la raconter. Et elle nous raconte des histoires complètement folles. Bah oui, c'est Clémentine Portier-Kaltenbach. Aujourd'hui, Clémentine, votre histoire est d'autant plus folle qu'elle se passe dans un asile où un soldat a été oublié.
Ah oui, non, vraiment, le pauvre Andras Thomas, quelle vie difficile. C'était donc un soldat hongrois. Et il est capturé en 44 alors qu'il défendait une petite ville en Pologne. La Hongrie était l'alliée de l'Allemagne jusque dans les derniers jours de la guerre. Et là, les Soviétiques ont menacé de raser purement et simplement la Hongrie si la Hongrie changeait pas de camp. Enfin, le pauvre Thomas, lui, ça lui faisait une belle jambe parce qu'il était dans un camp de prisonniers de guerre soviétique avec une masse de prisonniers allemands. Il parlait pas l'allemand, naturellement. Les Allemands ne parlaient pas le hongrois. Aucun des gardes et des membres des autorités soviétiques ne parlait le hongrois non plus. Donc tout le monde pensait que ce malheureux, il avait vécu un stress traumatique lié à la guerre, ce qui était d'ailleurs le cas, mais qu'il s'exprimait dans une sorte de charabia incompréhensible de son invention. Alors du coup, hop, on le met dans un asile en Union soviétique, ce qui d'ailleurs à l'époque et quand même a été pendant une longue période une chose assez courante pour se débarrasser des personnes jugées gênante. Et ce qui n'était pas le cas de Thomas. Mais enfin, lui, il a échoué dans cet asile à cause de sa langue étrange. Et très vite, les autorités hongroises, en fait, l'ont considéré comme disparu, comme mort au combat. Donc, plus personne ne s'est inquiété de son existence, le malheureux. Ce qu'il faut savoir, c'est que le hongrois n'a absolument aucun rapport avec aucune autre langue en Europe. Il y a des liens.
Le finnois.
Tout à fait, Stéphane, des liens très lointains avec le finnois, mais aussi l'estonien. Mais ils ne sont pas mutuellement intelligibles, comme ce le sont le suédois, danois, norvégien, par exemple. Donc, dans cet environnement extrêmement violent, désordonné de la Seconde Guerre mondiale, et avec le système hospitalier soviétique, évidemment, personne ne comprenait ce qu'il disait, le pauvre. Et puis, il ne semblait pas capable d'apprendre lui-même le russe, et il arrivait à peine, juste à exprimer qu'il avait besoin de manger, besoin d'eau, etc. Donc voilà, interné, sans doute avec mauvaise nourriture, drogue administrée aux malheureux malades. Bon, personne s'occupait de lui, le malheureux. Bon, et en 2000, il y a un linguiste slovaque qui est appelé par les autorités russes pour voir quand même s'il pouvait déchiffrer la langue de monsieur Thomas. Et il a dit, mais enfin, ce monsieur est hongrois. Voilà. Et alors, il va retourner en Hongrie. Un peu plus tard dans l'année, et évidemment, ça a fait un vrai scandale, vous imaginez, personne en 55 ans n'a réussi à se soucier suffisamment de l'histoire de ce malheureux, et que personne n'avait reconnu sa langue alors que c'était celle d'un ancien allié soviétique, la honte.
Bon. Bah, lui-même aurait pu dire un truc comme hongrois.
Apparemment, ça peut être moi. Alors, Monsieur Thomas, c'était un homme très calme. Hein. Alors, est-ce qu'il était calmé par les médicaments ou par simplement la lassitude, très renfermé et qui montrait clairement des signes de TSPT, c'est-à-dire de stress post-traumatique. Hein. Évidemment, il a vécu la guerre, ce malheureux. Donc, écoutez, les autorités hongroises, en tout cas, ont fait des recherches. Du coup, ont affiné son identité. Ça a été rendu difficile parce que les autorités hospitalières avaient mal inscrit son nom. Et puis, au bout d'un moment, on a retrouvé un frère et une sœur survivants. Et immédiatement, bien qu'il soit beaucoup plus jeune qu'Andras, ils l'ont immédiatement reconnu parce qu'il était le portrait craché de son père et de leur père. Et on a fait des tests ADN qui, bien sûr, ont confirmé qui il était. Alors, bon, il est rentré en Hongrie. Bon, et là tous ses souvenirs sont revenus d'un coup. Il s'est souvenu qu'il avait suivi une formation de forgeron, qu'il avait été enrôlé dans l'armée hongroise en 44. Il a combattu très très brièvement avant d'être fait prisonnier. Bon, il a à peine vécu, cet homme-là, hein, parce qu'il a été fait prisonnier à 19 ans et il a été libéré à 74 ans. Il parle en plus une ancienne version du hongrois, parfois difficile à comprendre pour les Hongrois contemporains. Et puis, il avait absolument aucune conscience du temps qui a passé, puisqu'il a passé quasiment tout son temps dans l'isolement. Alors, quand on lui a dit qu'on lui montrerait un film sur les événements de la Seconde Guerre mondiale, il a été mettre sa chaise au fond de la salle en s'imaginant qu'il allait voir un film au cinéma. Et puis, il a été très déçu parce qu'on lui a montré ça à la télé. Il n'avait jamais vu une télé de sa vie. Et oui, Andras Thomas. Il est mort, figurez-vous, en 2004. Il était né en 25, donc il aura connu 4 ans de liberté. Ouais. Enfin, tout de même, le gouvernement hongrois a reconnu le sacrifice de Monsieur Thomas et lui a payé ses arriérés de salaire pendant 55 ans.
Ah, sympa.
Voilà.
Stéphane, vous tentez de mettre l'enthousiasme, c'est l'histoire la plus triste qui nous était donnée dans notre émission.
Mais il a réussi finalement à prouver qu'il existait, et ça c'est beau.
Tout
c'est
ça beau, pour mourir 3 ans plus tard.
Et c'est ses frères et sœurs qui ont hérité de la somme.
Tout gagné. Écoutez,
bah oui, c'est une belle histoire qui finit bien.
Oui, c'est une horrible histoire qui finit pas trop mal. Pour se remonter le moral, on va procéder au quiz, restez avec nous.
Ah oui, c'est vrai.
Notre fameux quiz, chaque après-midi, Stéphane Bern contre Clémentine Portier-Kaltenbach. Et on commence toujours par vous, Stéphane. Je ne sais pas trop pourquoi, c'est comme ça. C'est la tradition. L'univers est une espèce de livre dont on n'a lu que la première page quand on n'a vu que son pays. Cette magnifique citation est de Charles Fougeret de Montbron, homme de lettres du 18e. On lui doit toutes sortes d'ouvrages, notamment Le Cosmopolite ou Le Citoyen du Monde, où il raconte ses voyages. Mais on lui doit aussi Margot la Ravaudeuse, un roman en libertin qui a eu beaucoup de succès en 1750. Mais d'ailleurs, qu'est-ce qu'une ravaudeuse ? Il n'y a pas de proposition.
C'est facile.
C'est à Stéphane que je pose la question, pas à vous.
Bah c'est celle qui répare, répare les habits, qui ravaude. Une ravaudeuse,
c'est celle qui
répare les vêtements.
Les vêtements.
Votre réponse,
elle recoue les vêtements.
Vous avez
une question sans piège. C'est possible. Dans
non,
le
quiz, ça arrive. Je vous ai donné
un petit ascenseur émotionnel, comme ça, pour un
Parce que je me suis dit peut-être qu'elle réparait d'autres choses dans un roman polisson.
C'est une personne qui reprise les bas, mais aussi les vieux habits. Dans le roman, la jolie Margot est sans le sou. Elle propose ses services de couture à même la rue, mais sa situation financière va vite s'améliorer. Je ne vous dis pas comment, pour ne pas gâcher le suspense. Question numéro 2 pour vous, Clémentine Portier-Kaltenbach. Le Rongo Rongo rassemble tous les écrits trouvés sur l'île de Pâques. Il était utilisé par les Matamois, ceux qui ont construit les célèbres statues. Après avoir déchiffré le Rongo Rongo, on sait surtout qu'ils étaient en guerre perpétuelle entre tribus. C'est ce qui a vraisemblablement causé leur perte. Vrai ou faux ?
Est-ce que c'est ce qui a causé leur perte ou est-ce que c'est une épidémie qui aurait... Je me demande si on ne s'est pas interrogé là-dessus sur le fait de savoir si la population n'aurait pas été éradiquée par... par le surgissement de voyageurs étrangers, un peu comme la rougeole avec les Indiens. Vous me dites que ce sont les guerres entre tribus qui auraient...
C'est ce qu'on a compris en déchiffrant le Rongo Rongo.
Bien sûr, vous connaissez le Rongo Rongo, Stéphane, qui prend un air très averti, là, très péremptoire.
J'en ai entendu parler depuis au moins 30 secondes.
C'est mon livre de chevet, le Rongo Rongo, bien sûr. Écoutez, les tribus seraient très radicales. Ce qui me paraît curieux, c'est que il serait quand même resté quelques individus. Non, je veux répondre faux.
Vous avez gagné.
Et par hasard, en répondant n'importe quoi, c'est la bonne réponse. Mais pourquoi ? Pas du tout une histoire de massacre de tribus. La question était, après avoir déchiffré le Rongo Rongo, on sait surtout. Mais on n'a jamais réussi à traduire le Rongo Rongo.
Voilà.
Parfois, on peut reconnaître des dessins et faire des suppositions.
Stéphane vient de nous dire qu'il...
La seule personne qui peut comprendre le Rongo Rongo.
J'ai jamais dit ça. J'ai dit que j'en avais entendu parler la première fois
Vous êtes comme mon soldat hongrois, Andras Thomas.
Il nous faudrait un Champollion parce qu'on est loin du compte. On a ainsi pu lire. On a déchiffré quelques mots. Oiseau, pénis, poisson, vulve, humain. On a traduit, traduction audacieuse, les oiseaux ont copulé avec les poissons, ce qui a engendré les premiers hommes. Mais bon, on n'est pas très sûr, vous voyez. On est dans l'interprétation la plus totale du Rongo Rongo. Question numéro 3 pour vous, Stéphane. Julie Victoire Daubier est née en 1824.
La première femme à avoir lu le bac. Ouais.
Elle me vole les mots de la bouche, donc c'est quand même beau. Effectivement, c'est diplômée la première femme qui s'est inscrite pour décrocher le baccalauréat et l'avoir obtenu. Puis, à 30 ans, elle est devenue journaliste sportive. Tout ça pour ça. Mais est-ce que c'est vrai ou faux ?
Je crois que c'est vrai. Non, pas journaliste sportive. Non, elle n'était pas journaliste sportive. C'est la première femme qui a eu le bac, mais je crois pas qu'elle ait fait de journalisme sportif, non. Je sais que c'est faux.
Vous avez gagné !
Carton plein cet après-midi dans le quiz. C'est faux, elle est devenue journaliste économique. Julie Victoire Daubier a beaucoup milité pour le droit de vote des femmes en particulier et a également mené de nombreux combats vers l'égalité en matière de mariage, de conditions de travail et de formation professionnelle pour les femmes. Un bel exemple. Question numéro 4 pour vous, Clémentine. Si je me trompe de mot, on peut dire que je parle mal à propos. Eh bien, le malapropisme est un mot qui non seulement existe, mais qui a été inventé par un Anglais au XVIIIe siècle. Vrai ou faux ?
Écoutez, qu'il puisse y avoir une forme de cuistrerie britannique à insérer des mots français dans la conversation mondaine. Et malapropisme, c'est un grand malapropisme. C'est pas beau, hein, entre parenthèses. Mmh.
Vous qui êtes anglophile, vous devriez savoir.
Alors vous me dites.
Eh bien, je dirais que les Anglais sont capables de tout et que donc c'est tout à fait possible. Donc je réponds oui.
Vous avez gagné.
Et oui, les Anglais sont capables de tout. Richard Sheridan a 23 ans à Londres en 1775. Il écrit une comédie, The Rivals, dans laquelle un personnage se trompe de mot. Ce personnage s'appelle Miss Malaprop. On disait déjà « parler mal à propos » en Angleterre un siècle avant ce roman, cette pièce. Exemple de malapropisme, vous m'avez enduit en horreur.
Ah.
C'est donc un terme anglais. La question numéro 5 va vous départager, vous qui avez répondu brillamment à toutes les questions du jour. 17 juillet 1944, dans les rues de Moscou, l'Union soviétique procède à la marche des vaincus. Un défilé militaire qui va durer 4h20. 57 000 prisonniers de guerre allemands marchent en plusieurs cortèges. Quelle étonnante initiative a pris l'URSS pendant cette humiliante parade ? Des haut-parleurs disaient « Verlierer » pendant la marche, ça voulait dire « perdant » en allemand. Ils ont balayé juste derrière eux pour augmenter l'humiliation, où ils devaient se mettre à cloche-pied, les détenus, quand ils passaient devant une tribune de militaires.
3, 2, 1.
Oh, c'est une bonne réponse de Stéphane.
Quelle est la réponse de Stéphane ?
Eh bien, justement, ils devaient balayer derrière eux.
C'est une bonne réponse, mais Stéphane. Oui. Mais oui, vous le savez, vous avez vu les images des engins de nettoyage fermer la marche. C'était censé effacer la marque du fascisme. C'était symbolique.
La saleté
nazie. Cette parade a été jugée par la suite contraire aux conventions de Genève au regard des traitements réservés aux prisonniers de guerre. On n'a pas les images, je crois, de ça. C'est pour ça que vous ne le savez pas, sauf Stéphane, évidemment, qui connaît le rongo-rongo et la Seconde Guerre mondiale comme personne.
sur Europe 1.
Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Vous écoutez Historiquement vôtre, ce qui ne m'étonne pas de vous, car vous êtes des auditeurs au goût très sûr. Chaque après-midi, trois personnages qui n'auraient jamais pu se croiser, mais pourtant, Stéphane.
Pourtant, ils avaient un point commun. Aujourd'hui, celui d'avoir crié
« Résiste !»
Après l'ancienne esclave devenue militante, Solitude, je vous raconte le destin d'une autre femme épatante, Mathieu. Est-ce que vous connaissez Gentle Mary ?
Bah écoutez Stéphane, c'est un peu gênant parce que je connais bien une Gentle Mary, mais sachant qu'elle est classée top porn star sur Pornhub, je pense pas que ça soit la même, si vous voulez, je pense pas.
Ah oui, effectivement Mathieu, ça doit être une homonymie.
Certainement.
Ma Gentle Mary, à moi, a été une résistante de la Seconde Guerre mondiale qui était aussi une artiste, la muse de Marcel Duchamp. Enfin, elle aussi a été la muse de Gainsbourg, de Michel Berger.
Et pas d'Aznavour, et ça c'est dommage Stéphane, parce que ça marchait bien.
Des branches. Ah non, débranche pas, hein.
Mais je vous raconte la vie en forme de roman de France Gall. Et puis eux aussi, Stéphane, se battent pour exister à leur manière.
Oui, nos chroniqueurs, David Cassel-Lopez, qui remonte aux origines d'une chose de la vie quotidienne.
Tout à fait, la ceinture de sécurité.
Finalement, maintenant, elle est acceptée. C'est comme tout.
Hein, même plus. L'obligation, c'est 74, je crois, l'obligation.
Non, ça, c'est en Belgique, ça.
C'est 73, mais c'était vraiment pas loin.
On n'était pas loin.
Hors agglomération, 79 en agglomération. Ouais.
Et puis, avec Olivier Poul, c'est bien. On va revenir sur un... C'est un peu régressif, hein, il veut dire, ce sont les sardines
en boîte. On va ouvrir une boîte, si vous voulez bien.
Et là, les gens se disent, il faut que je sois là parce que je vais savoir s'il y a 6 sardines ou plus dans une boîte de sardines. C'est quand même un enjeu très fort.
Et c'est ça, résister.
Résister et surtout ne pas trop passer pour un con. C'est leur nouveau défi chaque jour vers 6h-10 quand vient l'heure de la lutte finale. Le problème, que c'est aussi mon défi à moi. En attendant, découvrons notre deuxième résistante du jour, résistante au sens propre. Hein. Cette fois, Stéphane Bern nous raconte la surréaliste Mary Reynolds.
Décembre 1942, en plein cœur des Pyrénées françaises. À plusieurs mètres en contrebas du col de la Pierre Saint-Martin, un petit groupe avance dans la montagne enneigée. Voilà près de 20 heures que les fugitifs ont entamé cette ascension périlleuse qui doit les mener de l'autre côté de la frontière espagnole. Le corps tremblant, Mary Reynolds progresse tant bien que mal. À 51 ans, sa condition physique est plutôt mauvaise. Et cette angoisse qui lui serre les tripes à chaque instant n'arrange rien. Si elle n'atteint pas la frontière, la Gestapo l'arrêtera. Comme bon nombre de ses amis résistants, elle sera envoyée dans ces camps terribles dont personne ne semble revenir. Mais enfin, le guide prononce les mots qu'elle attend. Nous y sommes. Mary Reynolds peut respirer. Hors de France, la voilà sauvée. Pourtant, ce pays qu'elle doit fuir était devenu le sien. 21 ans avant l'épopée béarnaise, l'américaine native de Minneapolis met le cap sur l'Europe et s'installe à Paris. À l'époque, l'insouciance l'a déjà quittée. Il lui faut se remettre d'un drame personnel, la perte de Matthew, son époux, emporté par la grippe espagnole. Nous sommes dans les années folles et la fête bat son plein dans la capitale française. Alors Mary compte bien s'y mêler pour oublier son chagrin. La voilà qui arpente le boulevard du Montparnasse pour découvrir ses brasseries animées. Sur la terrasse de la Closerie des Lilas, elle aperçoit Scott et Zelda Fitzgerald attablés au Select. C'est Ernest Hemingway qui noircit les pages d'un cahier. Accoudé au bar de la Rotonde encore, Pablo Picasso refait le monde. Ici, Mary retrouve ses compatriotes et la légèreté de Greenwich, ce quartier bohème de New York où elle avait poser ses valises avant de traverser l'Atlantique. Alors chaque soir, elle sort danser et s'enivre de champagne dans les cabarets en vogue. Son quartier général, ce sera le bœuf sur le toit, où le tout Paris se retrouve jusqu'au bout de la nuit et swing au son du jazz. Elle s'y rend avec ses amis américains, dont la richissime héritière Peggy Guggenheim, et croise la crème des artistes. Le bœuf, c'est le rendez-vous des dadas parisiens. Imaginez autour d'une même table, dans un énorme brouhaha, l'écrivain André Breton, les poètes Paul Éluard et Louis Aragon ou encore le peintre Francis Picabia. Cette année-là, Les débats font rage chez les défenseurs de l'esprit moderne. Breton rompt avec le dadaïsme et s'impose en chef de file des surréalistes, ce mouvement qu'il théorise et qui s'inspire des rêves. Depuis sa table, Mary, silhouette fine et cheveux courts, toise ses hommes derrière les volutes de sa cigarette. Elle aimerait tant prendre part au débat qui agite les sphères intellectuelles. Mais pour cela, l'américaine aurait besoin de maîtriser davantage la langue française. Il en est un qui pourrait peut-être l'aider. C'est l'artiste Marcel Duchamp. Quelques années plus tôt, Mary l'a aperçu en pleine partie d'échecs dans un café new-yorkais. Le peintre lui avait laissé un piètre souvenir. C'était certes un homme élégant, mais quelle suffisance émanait de lui. Or, ce matin, rue Montessuie, lorsque Mary ouvre la porte à son nouveau professeur, elle revoit son jugement. Marcel est grand, drôle, irrésistible même. À la troisième leçon de français, ce qui devait arriver arriva. L'élève et son maître finissent sous les draps. C'est le début d'une liaison tumultueuse qui durera près de 30 ans. Duchamp est un électron libre, il réfute l'idée d'une vie à deux et multiplie les aventures. Il finit par épouser la fille d'un riche constructeur automobile, puis divorce 6 mois plus tard. Mais toujours, Marcel revient vers Mary. À la fin des années 20, ces deux-là sont indissociables. Stimulé par l'esprit surréaliste qui l'entoure, Mary Reynolds se lance dans la reliure d'art et installe son atelier dans sa maison de la rue Allée, non loin du parc Montsouris. Ses reliures audacieuses sont vite reconnues. Elle habille les textes d'Alfred Jarry, Raymond Queneau ou Stendhal. Le quotidien du couple est fait de mondanité, d'effusions intellectuelles et artistiques et de passions amoureuses. Mais outre Rhin, l'avènement du Troisième Reich menace bientôt l'équilibre de cette vie débordante. 1941. Dans les rues de la capitale, le regard au sol, Mary Reynolds presse le pas. Pas une minute ne passe sans qu'elle n'entende le claquement des bottes ennemies sur les pavés de la ville occupée. Partout, les soldats allemands triomphent et des drapeaux frappés de la croix gammée sont élevés. Mary pousse enfin la porte de son atelier. Elle y est accueillie par son chat Mickey, ronronnant au milieu des livres, des outils de reliure et des œuvres d'art. Quand la capitale est tombée aux mains de l'ennemi, Marcel a fait ses bagages pour gagner la zone libre. Mary, elle, a refusé de quitter son atelier. Ce soir-là, elle attend de la visite. Depuis quelques semaines, elle accueille les réunions clandestines du réseau Gloria SMH. Alors que le régime de Vichy collabore avec l'Allemagne nazie, Mary Reynolds, elle, a choisi de rejoindre la résistance. Le groupe Gloria, qui compte environ 200 membres actifs, recueille des informations militaires sur l'ennemi et l'adresse de l'américaine est devenue une planque pour les agents en danger qui viennent s'y cacher. Son nom de code, Gentle Mary. Mais à l'été 1942, Mary et ses compagnons de lutte comprennent que le réseau a été infiltré. Une taupe délivre des informations capitales à l'ennemi. Il s'agirait de l'abbé Robert Allèche, devenu agent double au service des nazis. Tour à tour, 53 membres de Gloria sont arrêtés par la Gestapo et presque autant sont déportés. Mary Reynolds est en danger, persuadée que la police allemande la surveille. Des camions de la Gestapo rôdent fréquemment devant son domicile. Alors un matin, à l'aube, Mary prend la fuite, laissant derrière elle ses œuvres, ses souvenirs et son chat. Première étape, les faux papiers. Désormais, on l'appellera Hélène Geoffroy. Après être passée illégalement en zone libre, Mary se réfugie à Lyon et cherche un passeur. En décembre, elle débourse 35 000 francs pour qu'on l'aide à rejoindre l'Espagne. Après des mois d'angoisse et une ascension périlleuse, elle est enfin sauvée. Après la guerre, Mary Reynolds retrouve Paris, dirige une revue d'art et retrouve son atelier de la rue Allée. Mais le bonheur sera de courte durée. C'est là qu'elle s'éteint, 5 ans plus tard, foudroyée par la maladie. À ses côtés, jusqu'au dernier souffle, Marcel Duchamp lui aura tenu la main.
Europe 1, historiquement vôtre.
Et Stéphane, pour continuer à parler de Mary Reynolds, nous sommes avec l'écrivain Christine Audot. Bonjour Christine.
Bonjour.
Christine Audot, vous êtes écrivaine, vous publiez une biographie de Mary Reynolds intitulée Mary Reynolds, artiste surréaliste et amante de Marcel Duchamp aux éditions Talendier. Comment avez-vous découvert cette figure oubliée du mouvement surréaliste ?
Écoutez, je l'ai découvert en travaillant sur la précédente biographie. Je suis tombée sur son nom dans les correspondances de son frère qui se désole de voir sa sœur qui est restée en 41-42 à Paris sous les bombes et qui lui demande de rentrer. Et Marie, d'une façon assez laconique, lui dit « Écoute, j'aide beaucoup de gens, j'aide des oubliés. C'est peut-être le reliquat d'une goutte de sang protestant qui se manifeste un peu tardivement. Marie a 49-50 ans. Et j'essaie de devenir meilleure. » Et je me suis dit... qu'est-ce que cette femme faisait à Paris? Donc j'ai creusé un petit peu, je me suis aperçue que d'aider les gens, en fin de compte, elle était rentrée dans la résistance. Ça a été mon fil rouge. Donc j'ai décidé de persévérer et je me suis rendu compte que cette femme avait été résistante, relativement, enfin une femme mûre, et qu'elle avait une vraie œuvre, puisque c'est une relieuse d'art et elle a des reliures absolument magiques, extrêmement audacieuses, impertinentes. Ensuite, toujours en creusant, elle a connu absolument toutes les gloires de l'époque. Elle était amie de Brancusi, de Man Ray, de Henri-Pierre Rocher. Elle a rencontré bien sûr Peggy Guggenheim, vous l'avez souligné tout à l'heure, Calder. Elle rencontre plus tard Jean Genet et bien évidemment, elle rencontre Marcel Duchamp. Donc, cette femme, pour moi, coche toutes les cases. Je la trouve irrésistible et je n'ai pas résisté.
Mary Reynolds débarque à Paris en même temps que plusieurs milliers d'Américains qui décident de poser leurs valises dans la capitale française. Qu'est-ce qui poussait tous ces jeunes gens à traverser l'Atlantique?
Alors, en tout cas, en ce qui concerne les Américains, ils étaient très nombreux parce que on en compte à peu près 40 000 en 1925. Vous aviez deux sortes d'émigration. Il y avait une émigration, je dirais, économique. Donc, des gens qui venaient faire des affaires à Paris et qui s'installaient rive droite, qui investissaient les maisons particulières. Ça, c'était une chose. Les jeunes gens dont vous parlez, c'est un petit peu la génération perdue. Enfin, c'est le terme que Gertrude Stein leur a donné. Il y avait beaucoup de gens qui revenaient totalement fracassés de cette guerre et qui avaient envie de s'affranchir. Il faut pas oublier quand même qu'aux États-Unis, la société était relativement puritaine à l'époque, qu'il y avait la prohibition, donc on ne pouvait pas boire. On pouvait... Et donc, ils venaient chercher autre chose. Et Marie, que vient-elle chercher? Elle vient chercher une certaine émancipation. Elle a perdu son mari, comme vous l'avez souligné, et sa famille a assez envie qu'elle rentre dans les codes. Pourquoi ne se remarierait-elle pas? Et sa mari, c'est hors de question pour elle. Donc, elle va partir avec toutes ces femmes qui vont s'affranchir, qui vont avoir un vrai métier, qui ne seront pas simplement des égéries ou des muses, qui vont avoir des vrais métiers et qui vont... qui ne dépendent pas ni du regard d'un mari, ni d'un père, ni d'un frère.
Justement, sur son métier, donc la reliure d'art, en quoi elle s'est illustrée? C'était quoi sa particularité dans ce domaine-là?
Alors, elle, je dirais, pour qualifier, j'ai amené des photos, mais on ne peut pas les montrer aux auditeurs, bien sûr, mais pour vous montrer un petit peu ce qu'elle faisait, c'est un côté surréaliste.
Sur
Europe1.fr,
vous pouvez le voir.
avec beaucoup de fantaisie, Marie, elle va prendre ses textes et elle va apporter quelque chose de très original. Par exemple, pour un texte qui s'appelle Le Surmal d'Alfred Jarry, qui raconte l'univers érotique de Jarry, elle va adosser une baleine de corset. Pour Rudy Vert de Queneau, elle va mettre un thermomètre qui fleure, enfin le mercure fleure le zéro. Il y a un très joli texte qu'elle va illustrer, enfin qu'elle va relier les mains libres, qui est un texte sur l'univers des femmes, qui est un texte d'Éluard et qui est décoré par des dessins de Man Ray. Elle va utiliser un maroquin très pâle, presque cher, et elle appose de part et d'autre du livre des gants. On a l'impression que ce sont les mains d'un amant qui en serre le livre. Donc elle a vraiment une approche très artistique. Il ne convient pas de faire un livre plus résistant, etc. C'est d'accompagner complètement le livre et d'en faire un objet d'art.
On peut voir ces travaux aujourd'hui
Alors, ces
part,
travaux, ou... ils sont à l'Art Institute of Chicago, donc à Chicago, dans la collection Mary Reynolds.
Merci beaucoup, Christine Audeau, de nous avoir plongé dans ce Paris des années folles. Je rappelle le titre de la biographie que vous consacrez à Mary Reynolds. Mary Reynolds, artiste surréaliste et amante de Marcel Duchamp, disponible dès ce jeudi aux éditions Taillandier. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.
Merci à vous.
16h-18h sur Europe 1.
Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Aujourd'hui, Historiquement Vôtre est donc consacré à ces artistes qui ont su résister. Après Solitude et Mary Reynolds, Mathieu, vous nous brossez le portrait, bon à 99% vrai, d'une inoubliable étoile de la chanson française, France Gall.
Oui, en préparant cette chronique, Stéphane, j'ai réalisé l'importance de la discographie de France Gall dans nos vies à tous. La discographie de France Gall, c'est la BO de nos vies. Pour chaque situation, chaque instant, il y a une chanson de France Gall qui correspond. C'est hyper bien foutu. Lorsque Poul s'essuie une énième défaite dans le quiz et qu'on a envie de lui dire... Évidemment. Lorsque David décroche durant mon récit parce qu'il est en train de taper des mots-clés bizarres dans Pornhub et qu'on a envie de lui dire... Ou encore quand Clémentine Portier-Kaltenbach se demande si elle a chopé une MST au dîner des amis de Napoléon et qu'on se dit entre nous... C'est ça, France Gall, la playlist de nos vies. Une résistance aussi, bien sûr, qui a perdu une fille et son compagnon, le génial Michel Berger, surdoué de la musique, un peu moins du tennis. France voit le jour le 9 octobre 1947 à Paris, mais ne s'appelle pas France tout de suite. Son vrai prénom, c'est Isabelle. Son père, c'est Robert, ancien élève du conservatoire, un chanteur, auteur et même compositeur d'une des plus belles chansons françaises.
Ils sont venus, ils sont tous là, dès qu'ils ont entendu ce cri, elle va mourir là.
Raison certainement pour laquelle Aznavour, qui est mort après France Gall, a eu envie de lui enregistrer un ultime hommage que nous entendrons tout à l'heure. Bref, Isabelle baigne dans la musique. Premier cours de piano à 5 ans, guitare à 11 ans, mais n'allez pas croire que c'est son père qui la formate pour devenir artiste. Non, pas du tout, Isabelle a déjà un caractère bien trempé. À la maison, c'est elle qui dirige à tel point que son père Bébert la surnomme « mon petit caporal ». Après avoir brièvement formé un groupe avec ses deux frères jumeaux, en 1963, Isabelle se lance seule. Son père signe pour elle, car elle est encore mineure, un contrat chez Philips. Denis Bourgeois, qui s'occupe alors de la carrière de Serge Gainsbourg, devient son directeur artistique. Il lui dit avec un tact tout relatif « Ma grande, Isabelle, c'est tout pourri, ça fait pas vendre, tu vas t'appeler France comme la France ». Une chance qu'elle soit pas née au Tadjikistan. Le jour de ses 16 ans, France sort son premier disque « Ne sois pas si bête », c'est le titre du disque, c'est un succès. Denis Bourgeois demande alors à Serge Gainsbourg d'écrire pour France. Écoutez bien, David, on croirait que ça a été écrit pour vous. Denis a vu juste. N'écoute pas les idoles et laisse tomber les filles cartonne. Grisé par ces deux succès, Papa Bébert écrit l'album Sacré Charlemagne pour sa fille.
Qui a eu cette idée folle un jour d'inventer l'école.
Insinuant dans l'esprit des jeunes que Charlemagne a inventé l'école, alors que je le rappelle pour la 40e fois à ce micro, il n'a pas inventé l'école, il était analphabète. Après, nous les historiens, on rame derrière. Enfin, encore un succès énorme, plus de 2 millions d'exemplaires vendus dans le monde. En 65, bingo, France est choisie pour représenter le Luxembourg à l'Eurovision. Stéphane Bern, qui présente le programme pour la 7e fois déjà, est très ému par sa prestation. Comme tous les téléspectateurs, il est subjugué par cette mélodie qui va devenir un tube.
Je suis une poupée de cire, une poupée de son.
France triomphe, mais derrière la façade, hein, une soirée magique, se joue un véritable drame. Le téléphone sonne en coulisses, mais le téléphone pleure, Stéphane, car le mec de France à l'époque, c'est Clo-Clo. Et Clo-Clo, comment dire, il est sympa, il est prévenant, il est empathique, mais bon... Voir sa copine capter toute la lumière, ça lui plaît pas trop, alors il lui dit « Tu as gagné, mais tu m'as perdu. Tu as chanté faux, tu as été nul, puisque c'est comme ça, c'est fini entre nous. » Comment définir Claude François à l'aune de cette anecdote ?
Un homme à brun soupolé.
Oui, j'aurais dit un connard, mais vous avez raison. Soupolé, c'est plus élégant. Bref, non seulement France vient de se faire larguer, mais en plus elle doit remonter sur scène directement derrière pour rechanter la chanson. Elle racontera des années plus tard, on me pousse sur la scène, on voit que j'ai des larmes plein les yeux, mais personne ne sait que c'est pas parce que j'ai gagné, c'est pas des larmes de bonheur. Le pompon, c'est qu'une fois de retour en coulisses, France se prend une gifle par la candidate britannique qui vient de terminer deuxième. Oh, la belle soirée. Sa vengeance sera le succès international de Poupée de cire, Poupée de son, qu'elle déclinera dans toutes les langues, y compris les plus improbables, en espagnol bien sûr. Mais même en japonais. Bon, ça aurait pu être pire, ils auraient pu faire une version allemande. Non. France décide d'enregistrer les sucettes de Gainsbourg, elle est ravie. C'est trop super génial qu'elle se dit. Une chanson sur le monde de la confiserie. Et puis elle est trop rigolote cette année. Quelle gourmande. J'espère qu'elle n'est pas diabétique. Bref, France est totalement à côté de la plaque et ne saisit pas une seule seconde le double sens potache du morceau. La chanson sort, c'est le scandale. Ses fans la boudent, on la traite de tenez-vous bien.
De pute.
Non, 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 quand même pas David, de Lolita. Et finalement, un peu longue à la détente, France réalise le sens caché de la chanson et se dit humiliée. En 68, on lui propose de jouer aux côtés d'Alain Delon dans le film Adieu l'ami. Elle décline et le regrette des années plus
plus tard, elle confie dans l'émission Fréquence Star « J'ai refusé parce qu'il fallait embrasser Alain Delon et que j'avais un boyfriend à l'époque, alors que c'est l'un des plus beaux hommes que je connaisse. On est un peu bestiaux à cet âge. » Le boyfriend en question, c'était Clo-Clo. Autant vous dire que quand il a lu le script...
La pendule de l'entrée s'est arrêtée sur...
La pendule de l'entrée s'est arrêtée, la carrière cinématographique de France aussi. Vous me direz, mais que foutait-elle encore avec lui puisqu'il l'avait largué à l'Eurovision? Bah, il l'avait reprise. Mais cette fois, c'est elle qui va partir. Et c'est cette rupture qui inspire à Claude son plus grand tube. Et oui, la feignasse qu'on bouscule parce qu'elle n'arrive pas à se réveiller, c'est France Gall, Stéphane.
Ah bon?
Vous ne savez pas? C'est vrai? Oui, c'est connu. Elle s'entiche alors d'un autre chanteur, Julien Clerc. Entre eux, tout va très vite. Elle le rencontre un mardi et dès le lendemain, c'est parti.
Même pas de capote.
Non, mais on n'en sait rien, David. Non, je veux dire, la relation démarre. Idyllique au début. Et là, c'est encore une fois, le succès de France passe mal auprès de son compagnon. Son ancien producteur raconte, elle vivait avec Julien Clerc qui ne supportait pas qu'elle chante. Il considérait que c'était soit l'un, soit l'autre qui devait exercer le métier. Et lui avait décidé que ce serait lui la vedette. Bref, il la considérait juste bonne à faire des confitures. Cela n'enlève rien à l'amour qu'il éprouvait pour elle. Hein. Non, ça n'enlève rien à l'amour qu'il avait pour elle. Il aimait juste le côté confiturière chez elle. Étonnamment, elle le largue et bis repetita, son désarroi lui inspire un chef-d'œuvre. Souffrir par toi n'est pas souffrir. C'est aussi à France Gall qu'on doit cette chanson. France, elle, continue d'aller de l'avant, musicalement et sentimentalement. Un jour, au volant de sa voiture, elle écoute la radio et devinez sur qui elle tombe.
Moi.
Non, Stéphane, pas vous. Elle entend cette chanson.
Laisse faire le temps.
Une femme normale se dit « c'est beau ». France Gall se dit « je vais le pécho ». Quelques jours plus tard, Michel Berger est invité ici, enfin là-bas, sur Europe 1. À l'époque où Europe 1 était de l'autre côté de la scène, là-bas. En gros, c'est dans un studio d'Europe 1 que France fait le poisson. On est là dans les coulisses, on attend dans un couloir. Il me dit bonjour et je lui dis « j'aimerais bien vous faire écouter quelque chose que ma maison de disques voudrait sortir ». Il me dit non. Alors, je débarque chez lui 8 jours plus tard, je lui fais écouter la cassette et là, il me dit « c'est nul ». Mais vous l'avez compris, Stéphane, France est têtue. Elle revient à la charge une semaine plus tard avec une autre maquette. Cette fois, Michel Berger déclare
« ça va, c'est pas mal, mais c'est pas non plus top ».
Il lui propose alors d'interpréter avec lui en duo « Mon fils rira du rock'n'roll ». Puis, en pensant à elle, il écrit ça. Roméo et Juliette, Bonnie and Clyde, Michel Berger et France Gall, ils deviennent le couple emblématique de la scène musicale française. Ils vivent l'amour comme ils le chantent. À partir de 75, il écrit et produit tous ses albums. Il crée Starmania, l'opéra rock qui triomphe, même si en coulisses, Fabienne Thibault se souvient que la femme du patron était un peu relou, je cite Fabienne Thibault. De là à pas se piffrer, il y a long à faire, mais on peut pas avoir des atomes crochus avec tout le monde. Nous n'avions pas beaucoup d'atomes crochus. Mais ça, on l'a dit, Stéphane. Hein. France Gall, elle a son petit tempérament. D'où cette carrière incroyable qui se termine tristement. Hein. Le 7 janvier 2018, France décède à l'âge de 70 ans des suites d'un cancer. Plus dommage, vous vous en doutez, mais le plus beau reste à mon sens celui qui n'est jamais sorti. Puisque Charles Aznavour y travaillait encore quand il a été lui-même surpris par la mort. Pour Europe 1, j'ai pu me procurer la maquette de Aznavour chante Gall. Et franchement, c'est dommage que ça soit jamais sorti parce que c'était prêt à diffuser.
Elle a quoi déjà?
Oui, alors on a qu'un tout petit extrait.
Leur... Oh non.
Un tout petit extrait.
Mais c'est parodique.
Et ce qui est marrant, c'est qu'on ne sait pas s'il a imité Aznavour ou Jean-Marie Le Pen. Ah, oui. On est un peu à la frontière entre les deux. On faudra rebosser ça, Sébastien. Mais on embrasse Sébastien Bordenave, notre humoriste.
Ah, c'est lui qui a prêté sa voix.
C'est, reconnu. C'est la personne qui conçoit le quiz aussi.
Oui, exactement.
Qui, quelque part,
on
dit long.
Il est très pervers. Bon, mais c'est très sympa. Merci beaucoup.
Europe 1, historiquement vôtre.
Il est l'heure de dire au revoir à nos personnages du jour, Stéphane, ces femmes qui ont eu l'audace de résister pour retrouver des chroniqueurs dont on ne sait pas, eux, ce qu'ils auraient fait en 40.
Bon, je ne veux pas savoir parfois, Mathieu.
Je lance la question.
Mais au moins, ils ont l'art de remonter aux origines de notre quotidien.
Oui, Olivier Pouls, notamment, les origines de la sardine en boîte.
Mais en 40, il aurait mangé des boîtes de sardines.
Ah oui, des boîtes de sardines.
Moi, je n'aurais pas eu le choix vraiment de ce que j'aurais fait en 40.
Justement, David Castello-Lopez, vous êtes avec nous. On commence par où? On remonte aux origines d'un objet de notre quotidien aujourd'hui, c'est la ceinture de sécurité.
Attachez vos ceintures, ça va décoller.
Pendant longtemps, l'été, quand j'étais jeune, j'ai fait des road trips en voiture avec une bande d'amis, tous garçons. Et on utilisait toujours la même voiture qui était une Renault 21 Symphony de 1992. Et ces road trips, ils avaient surtout un objectif, c'était de rencontrer des filles venues d'autres pays. Et donc, comme on était un petit peu beauf avec mes amis, comme on l'est souvent à ces âges tendres, on avait donné un surnom à la Renault Renault 21 Symphonie, on l'avait baptisé le Love Tank. Le char d'assaut, le char d'assaut de l'amour.
Oh, vous deviez avoir l'air fin.
Oui, et puis un jour sur une route de campagne en Roumanie, pas très loin de la station balnéaire de Constanța, ah oui, le Love Tank a commencé à émettre un râle affreux et quelques secondes plus tard, il s'est arrêté. Et il s'est arrêté pour toujours parce que la Love boîte de vitesse avait rendu l'âme. On avait beau appuyer sur le Love embrayage, il ne se passait plus rien. Et une heure plus tard, il y a un dépanneur roumain viril avec une moustache qui est arrivé. Je suis monté à l'avant de la dépanneuse avec lui. Et bien sûr, je me suis tourné pour mettre ma ceinture de sécurité. Et là, ce dépanneur roumain m'a regardé, mais exactement comme si j'avais insulté sa mère ou que je lui avais craché dans les yeux, voyez, parce que pour lui, si je mettais ma ceinture de sécurité, c'est que au fond, je pensais qu'il conduisait mal. Or, la conduite, pour certains hommes un peu primitifs, c'est le siège suprême de la virilité, la compétence qui, à leurs propres yeux, les sépare de, je cite, les gonzesses. Et 14 ans plus tard, ça m'a donné envie de savoir d'où venait la ceinture de sécurité. Alors, en gros, avant les années 50, ça n'existait pas. Et puis, justement, à la fin des années 50, en Suède, il y a eu un événement. Vous connaissez la marque de voiture Volvo.
Certes.
Voilà. Eh bien, l'histoire qui est racontée, c'est que le PDG de Volvo, le fameux Gunnar Engelau, qui s'appelle comme ça, je me suis un petit peu entraîné à l'accent suédois, Gunnar, il a perdu un des membres de sa famille dans un accident de voiture. Et disons que ça l'a un petit peu chauffé pour trouver une solution pour que les gens meurent moins en voiture. Alors, il a embauché un ingénieur qui s'appelait Nils Böhlin et qui avait travaillé à la conception des sièges éjectables des avions de chasse de l'armée suédoise. Et c'est Nils qui a conçu la ceinture de sécurité dite à trois points qu'on connaît aujourd'hui, hein, et qui a été installée sur tous les modèles de Volvo à partir de 1959 et qui de là s'est étendu aux autres constructeurs. Et à partir de là, on a pu faire des statistiques, comparer les accidents avec ceinture avec les accidents sans ceinture, et on s'est rendu compte que le gain de sécurité quand même était assez massif. Et donc petit à petit, à partir du début des années 70, la ceinture, elle a commencé à devenir obligatoire. 1970, la France oblige tous les constructeurs automobiles à proposer une ceinture de sécurité à l'avant quand elle construit pour toutes les voitures neuves. En 1973, la ceinture, elle devient obligatoire à l'avant hors agglomération, 1979 obligatoire à l'avant partout, et en 1990, j'avais 8 ans mais non, je m'en souviens très bien, elle devient obligatoire à l'arrière. L'un dans l'autre quand même, ça n'a pas si mal marché la ceinture de sécurité, puisqu'on considère que Nils, l'inventeur de la ceinture de sécurité, il a sauvé plus d'un million de vies. Il n'y a pas beaucoup de gens qui peuvent en dire autant. Quant à moi, ça m'est arrivé à plusieurs reprises depuis la Roumanie qu'un chauffeur se vexe du fait que je mette ma ceinture, mais maintenant je me laisse plus faire et je lui fais un petit cours de sécurité routière qui passe généralement assez mal, mais en tout cas, je ne prends plus de risques de ce point de vue-là.
Merci David, on retrouve les origines en podcast sur toutes les applis audio et en vidéo sur YouTube, Dailymotion et sur le site évidemment d'Europe1.fr.
Historiquement vôtre, l'émission qui remonte aux origines des inventions, mais aussi des plats qui font notre quotidien. Parmi ces plats, ces produits, c'est un produit que j'aime bien parce que c'est toujours l'occasion d'écouter de la bonne musique quand on en parle. Et moi, en tant que mélomane, voilà,
bien sûr,
je passe pas à côté d'une occasion comme ça. Les sardines, mais pas n'importe lesquelles, Olivier, les sardines en boîte.
Ah non, celles que vous avez peut-être ou probablement dans votre placard, ça peut toujours servir. Mais avant, petite question, tiens, petite devinette. Quel point commun y a-t-il entre une boîte de sardines et une bouteille de grand vin?
Elle se bonifie avec le temps?
Exact. Bonne réponse encore.
C'est une mauvaise réponse puisqu'une bouteille de vin ne se bonifie pas forcément avec le temps.
Elles sont susceptibles de se bonifier.
Il y a plein de vins qui sont pas de garde et qui se bonifient pas.
Quand je dis un bon vin se bonifie avec le temps. Et oui, l'une des particularités des boîtes de sardines, c'est que elles peuvent se garder non pas des mois, mais des années. Et certains d'ailleurs les gardent plus de 10 ans. Avec une petite précaution, c'est tous les 6 mois de les retourner de manière à faire circuler l'huile d'olive qui se trouve à l'intérieur. Et en fait, c'est assez extraordinaire que de déguster une boîte de sardines qui a 10 ans, c'est vraiment très très bon. Eh ben la sardine, elle a complètement confit dans son huile. Et vous avez, alors, elle est presque, c'est comme une espèce de petite purée de sardine, mais extrêmement délicate en termes de goût. Ah oui. Vraiment, c'est très bon. Et on achète d'ailleurs aujourd'hui des boîtes de sardines millésimées, dont le but de les garder. Moi, j'ai un petit stock, une petite cave à sardines, si je puis me permettre.
Et vous y retournez tous les...
Ouais, tous les 6 mois,
je retourne.
Et j'ai une vingtaine ou une trentaine de boîtes, et de temps en temps, tac, je m'ouvre une boîte de vieilles sardines. Bon, alors.
Et après, c'est vous qui dites à David qu'il est qu'il est dérangé.
Moi, c'est ça, de 72.
Vous vous êtes trouvés tous les deux, moi, je dis.
Alors, la boîte de sardines, justement, pour en arriver là, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, la sardine,
on la
pêche.
Elle est entrée dans la boîte.
Bah oui, elle est entrée dans la boîte. On la pêche, évidemment, depuis de nombreux siècles. Et il y a toujours eu un problème, lorsque les hommes avaient besoin de conserver des aliments. C'était comment faire, justement, pour ne pas que ça se gâte. Alors, les Romains, ils avaient déjà une petite idée avec les sardines. Ils faisaient ce qu'on appelle le garum. Le garum, c'est une sorte de sardine broyée, salée, qu'on faisait macérer. Bon, c'était un peu fort en goût, on n'était plus très proche du produit quand on le mangeait, mais on pouvait le garder quand même. Alors au XVe siècle, on commence à utiliser les premières saumures et le fumage, bien évidemment. Au XVIIe siècle, on invente encore une nouvelle méthode de conservation, dite par pression. C'est-à-dire que la sardine était salée, puis pressée, de manière à ce qu'on en sorte tout le jus et toute l'huile. Et ensuite, on pouvait la conserver pendant quelques mois dans des espèces de barriques. Ça pouvait voyager. Mais là encore, on est assez loin du produit de base. Et tout va changer en 1795 avec une invention révolutionnaire qu'on doit à un cuisinier confiseur, d'ailleurs, Nicolas Appert. Nicolas Appert invente l'apertisation.
Voilà. Et qui a donné la rue de Charlie Hebdo aussi.
Voilà.
Oh.
L'apertisation, qu'est-ce que c'est? C'est un procédé qui consiste à chauffer les aliments pour détruire les bactéries en les enfermant dans un récipient étanche. C'est le principe de la conserve. Et très rapidement, la sardine va intéresser tous les gens qui se livrent à l'apertisation. C'est le premier poisson à bénéficier de cette technique. Et la première boîte de sardines est fabriquée, on le sait, en 1810. Alors, j'irai pas jusqu'à goûter celle-là, hein, faut pas exagérer. Mais elle est fabriquée en 1810 par un confiseur, encore un Nantais. Il s'appelle Joseph Collin. Alors, quand on s'appelle Collin, faire de la sardine en boîte, c'est quand même assez cocasse. Mais tout de même, et son fils Joseph-Pierre ouvre à Nantes dès 1824 l'une des premières conserveries industrielles. Mais moi je vous propose, si on a encore un tout petit peu de temps, une rapide recette avec une boîte de sardines, c'est différent de la tartiner simplement sur du pain. Faites des petites pâtes ou des spaghettis, ouais, sardines, c'est bon. Citron, capre.
Il n'y a que comme ça que j'aime les sardines.
Et c'est magnifique. Alors tout simplement, la sardine, vous en récupérez l'huile. Dans l'huile, vous allez faire revenir une échalote. Vous allez rajouter les sardines coupées en petits morceaux, des capres, le zeste d'un citron, un petit peu de jus de citron. On fait cuire des pâtes. 2 cuillères à soupe d'eau de pâte pour lier le tout. On fait revenir les pâtes dans cette espèce de petite préparation. Et puis sel, poivre, un dernier filet d'huile d'olive. Et là, on a magnifié une boîte de sardines.
Merci Olivier. On peut retrouver toutes vos recettes sur le site d'Europe1.fr. Il règne dans ce studio une ambiance qui n'est pas sans rappeler celle du Love Tank à la grande époque des voyages de David Castello-Lopez en Roumanie. Les amis, c'est l'heure de la lutte finale.
C'est une bataille historique entre Olivier, Mathieu et David. Quel est le moins nul des trois? Une question pour chacun et une pour départager si jamais il y a une égalité. Olivier, une question vraiment qui me tient à cœur. Le 21 mai 1539, François Ier promulgue le fameux édit de Château-Renard. Le principe, vous le connaissez, une loterie est créée pour renflouer les caisses de l'État.
Le principe, vous le connaissez.
Le loto-patrimoine, c'est ça?
En 2 ans, ça sera fait. Et voilà. Vrai ou faux?
En 2 ans, ce sera fait.
Oui. En 2 ans, on aura renfloué les caisses de l'État.
Ça paraît improbable, mais ça doit forcément être vrai, puisque c'est improbable.
Vous êtes abonné, vous.
On repousse. Il a toujours envie d'y croire.
Mais l'autopatrimoine au XVIe siècle, ça
me dit. Non, pas l'autopatrimoine.
Non, c'était pour.
Une loterie.
J'étais une loterie.
Oui.
Importée, la loteria qu'il avait ramenée à la Renaissance d'Italie. Il s'est dit, mais c'est formidable ce système, je vais faire ça.
Mais ça n'a pas marché.
Ça n'a tellement pas marché que 2 ans plus tard, on abroge l'édit parce que c'est un bide total. Personne n'a joué à la loterie pour enflouer les caisses de l'État. Alors David, la question est pour vous. Il y a eu un roi de France qui s'est appelé Raoul. Il est mort de prolifération de poux, morpions et vermines sur tout le corps. Est-ce vrai ou faux?
Je pense qu'il y a eu un roi qui s'appelait Raoul, mais il n'est pas mort de ce genre de prolifération, puisque les poux ne se mettent que sur les poils, et au pire, on peut raser ses poils.
Moi, je vais commencer à déposer des réclamations dans ce jeu, parce que là, ça va trop loin.
Donc c'est faux.
Oh, il a perdu!
Je m'inscris en faux avec mon ami David. Comment on peut mourir de poux? Ce n'est pas possible, hein, les poux, ils ne peuvent pas manger.
Raoul Ier, duc de Bourgogne, a régné de 923 à 936. Il succombe suite à une pédiculose corporelle. Il en est mort. Mais si c'est l'heure de goûter, n'oubliez pas de vous laver les mains d'abord. Alors, Mathieu, pour vous.
Vous qui êtes, cher Mathieu Noël, un exemple de virilité et qui assumez également votre part de féminité, voici une question pour vous. Dans la Grèce antique, Hermaphrodite est l'enfant d'Hermès et d'Aphrodite. Vrai ou faux ?
Je me demande si cette question n'est pas un piège. Ça paraît trop beau que ce soit le fils d'Hermès et d'Aphrodite. Là, il y a si mon fils écoute l'émission, ce qui peut lui arriver parfois, il est spécialiste de la Grèce antique, il a 9 ans. Et là, il me hurlerait dessus si je donnais la mauvaise réponse. Je pense que c'est faux. Ok, alors là, il faut absolument que mon fils n'écoute pas cette émission.
Hermès, messager des dieux.
Mais ça paraissait trop facile.
Et Aphrodite, déesse de l'amour, ont eu un enfant ensemble. Hermaphrodite avait les parties génitales d'un homme et les seins d'une femme. De quoi passer une bien belle soirée.
Bien sûr, on a besoin de se divertir en ce moment. On a besoin de se divertir.
J'en rougis de honte.
Alors, c'est vrai qu'il est tout rouge en plus.
Tout le monde a faux, donc oui, question qui départage. La réponse la plus proche remporte la lutte finale. Mm-hmm. Parfois, quand on se balade dans la rue, sur les trottoirs, il y a des chewing-gums. Quel âge avait le plus vieux chewing-gum retrouvé dans l'histoire de l'humanité ? Je vous demande en années, pas en secondes, en minutes, etc. Ou en siècles. Le plus vieux chewing-gum retrouvé...
8000 ans.
8000 ans, vous dites ?
3000 ans.
3000 ans.
2000 ans.
C'est Mathieu qui a...
réfléchir.
Voilà, parce que 5700 ans.
Ah bah oui.
5700 ans.
Ah, oui, 3007, et vous êtes à 2003, et vous êtes à 2003 ans. Ouais.
Non, tu as perdu, ans. David, ce sont des choses qui peuvent arriver.
600 ans près.
À 600 ans près, tu n'as pas bon. Et...
Il a été retrouvé sur un site archéologique danois. L'ADN de la mâchouilleuse a donné plein de renseignements. C'était une femme qui avait la peau foncée, les yeux bleus. C'est une découverte récente, 2019.
Voilà. Et rappelez le nom du vainqueur.
Le nom du vainqueur est Mathieu Noël.
Merci.
Et rappelez la marque du chewing-gum.
Historiquement vôtre, il faut se rendre à l'évidence, c'est fini.
Mais non Mathieu, allez, quoi, un peu de gnaque. Bah, on a qu'à rester et prendre en otage l'antenne.
Vous avez pété les plombs Stéphane.
Non, j'essayais juste d'être à la hauteur de nos personnages du jour. Vous savez, ces femmes qui ont crié...
Moi je ne résiste pas, je veux connaître le programme de demain Stéphane, on parle de quoi ?
Demain, on réunit des enfants de cœur, qui ne l'ont pas été toute leur vie. Hein. L'auteur Georges Simenon, la reine de la soul Aretha Franklin... Et puis Manuel Valls.
Mais pourquoi c'est vous qui faites Aretha Franklin et moi Manuel Valls ?
Parce que Aretha Franklin est morte, Mathieu.
Mais Manuel Valls aussi ? Enfin, politiquement en tout cas. Non, bref, on se retrouve demain. À demain, les amis.
Retrouvez Historiquement Vôtre tous les jours de 16h à 18h sur Europe 1 et en podcast sur Europe 1.fr.